17 secondes, c'est parti. Allez.
Soir de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Ça, c'est de ma faute.
Hop. Et tu penses, on enregistrera après, c'est bon ?
Non, t'inquiète pas.
D'accord, ok.
Zoom écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Bonsoir, vous êtes sur Zoom Écologie sur RFPP 106.3. Chaque jeudi donc du mois consacré aux problématiques environnementales et écologiques. Et le premier du mois est consacré, invite des spécialistes, des militants universitaires pour parler de ces problématiques-là. Ce soir, nous avons décidé de consacrer notre émission aux ONG environnementales et de comprendre la manière dont elles fonctionnent, le contexte dans lequel certaines ont été créées, se sont développées, et encore pour comprendre pourquoi elles sont devenues si dominantes à la fin du XXe siècle, et si, pour certaines, elles sont vraiment, véritablement vocation à protéger la nature, l'environnement, et si oui, la manière dont elles s'y prennent. Pour parler de cela, nous avons invité Denis Chartier, maître de conférence à l'Université d'Orléans, qui a fait sa thèse sur le rôle des ONG environnementales que sont WWF et Greenpeace dans la résolution des problèmes environnementaux. Il est également co-rédacteur de la revue Écologie et Politique, dont on parlera à la fin de l'émission. Bonsoir Denis.
Bonsoir.
Je remercie également Johan de la bande à Bébert qui assure en ce moment la technique pour le bon déroulement de l'émission. Les ONG environnementales donc, sont devenues des objets de recherche de plus en plus, ont été de plus en plus étudiées et sont très intéressantes de par la fonction et les missions qu'elles se donnent et qu'elles cherchent à remplir, mais aussi de par l'importance de plus en plus accrue que les États, organisations internationales comme les Nations Unies ou la Banque mondiale, la World Bank, leur confèrent dans la gestion des problèmes environnementaux globaux et locaux. En même temps, cette intervention de plus en plus croissante des ONG a attiré de plus en plus l'attention des chercheurs, mais aussi attiré les foudres et les critiques vives qui viennent dénoncer souvent le gap, le fossé entre ce qu'elles prétendent faire et ce qu'elles font vraiment sur le terrain. Pour preuve, la dernière publication de Fabrice Nicolino, intitulée « Qui a tué l'écologie ? Greenpeace, WWF, Fondation Nicolas Hulot, France Nature Environnement en accusation », qui est paru aux éditions du Lien qui Libère en 2011, et qui est en quelque sorte un assez violent pamphlet contre ces ONG dénonçant les liens de connivence, notamment entre l'État français, les multinationales, etc. Denis, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de cet ouvrage de Nicolino, si vous l'avez lu, nous décrire un peu l'intérêt et les limites de ce que Nicolino a voulu faire dans cet ouvrage.
Très bien. Alors, je l'ai lu en partie. Il se trouve que je trouve que l'ouvrage de Nicolino soulève évidemment des questions très intéressantes qui ne sont pas du tout nouvelles, contrairement effectivement, à ce qu'il peut dire dans son ouvrage ou dans les différentes interventions qu'il a pu faire pour faire la promotion de cet ouvrage. On avait un peu l'impression que voilà, on découvrait que les ONG d'environnement étaient des acteurs pleins de complexité qui peut-être étaient au service du grand capital pour faire vite. C'est un petit peu ce qu'il exprime en tout cas. Et en tout cas qu'elles se fourvoient dans leurs actions parce qu'elles ont abandonné un certain nombre de préceptes et qu'elles ont perdu de vue leur objectif premier.
Et qu'elles nous trompent aussi.
Et qu'elles nous trompent du coup aussi. Et effectivement, c'est un discours assez classique. Ça ne touche pas d'ailleurs que les ONG d'environnement. Oui. Il y en a plein d'autres qui... même des chercheurs hein, qui développent des thèses autour de ça. Pour moi, le problème de l'ouvrage de Nicolino, c'est que, effectivement, ces thématiques sont très intéressantes. Le problème, c'est qu'il n'aborde pas vraiment... de façon très sérieuse, c'est-à-dire que l'argumentaire est quand même assez faible. On sent qu'il est dans les réseaux un peu écologistes, environnementaux, qu'il y a eu beaucoup de discussions autour des contradictions, des limites de l'action de ces organisations, et qu'en fait il se base là-dessus sans avoir fait une enquête très poussée.
C'est ce qu'il prétend faire.
C'est ce qu'il prétend faire, et là pour moi en fait du coup ça affaiblit complètement son propos, c'est-à-dire que expliquer que Greenpeace, WWF, qui sont les deux organisations que je connais le mieux, moi je connais moins bien FNE et puis la Fondation Nicolas Hulot, expliquer que c'est des organisations qui effectivement brassent beaucoup d'argent, qui effectivement travaillent avec des multinationales pour certaines, pour le WWF en particulier, qui, donc, de fait, sont des organisations où il y a de l'argent, où il y a du pouvoir, où il y a des tensions humaines, etc. Bah oui, ok, on est avec des organisations, avec des budgets
colossaux.
Et de fait, c'est compliqué quand on se positionne sur le champ de l'environnement et qu'on prétend, alors peut-être que c'est un problème, hein, à l'échelle internationale, résoudre, être les bons acteurs pour résoudre les problèmes environnementaux. On peut toujours trouver effectivement des limites à leurs actions. Voilà. Alors la question, c'est pourquoi. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi il a fait ça. C'est-à-dire qu'il y a une. Je trouve que faire un travail de critique de ces organisations est assez fondamental. C'est-à-dire qu'on doit aujourd'hui, je crois, vraiment étudier de très très près ce que font ces organisations, parce que il me semble qu'en là, pour le coup, je me mets pas en chercheur, mais presque en citoyen militant, parce que je crois que leur rôle dans la société. Et dans la résolution des problèmes écologiques ou autres, il est fondamental. Mais et c'est des acteurs qui ont les moyens, en plus de donner naissance à des modes d'action politique différents qui peuvent décoincer en fait un certain nombre de solutions. On voit aujourd'hui la difficulté quand les États résolvent, je sais pas quoi, la crise systémique et monétaire. Bon, et je pense que voilà, ces acteurs-là amènent peut-être d'autres solutions, donnent des points d'entrée pour résoudre les problèmes différents, et c'est en tout cas fondamental pour le débat. Et elles ont aussi un rôle fondamental pour mettre à l'agenda international ou national des questions qui n'y seraient pas de toute façon.
Qui ne seraient jamais arrivées.
Jamais. Donc ça, c'est
vrai.
Donc il faut, mais de fait, parce qu'elles sont essentielles, il faut les regarder de très près. Et il faut qu'elles soient. De par la responsabilité qu'ils ont, vigilantes, de ne pas tomber dans des contradictions insurmontables ou de ne pas oublier pourquoi elles sont en train de pourquoi elles existent, en fait, tout simplement. Et donc ça, c'est fondamental. Mais faire un bouquin comme a fait Nicolino, de mon point de vue, c'est très contre-productif, parce que d'abord, la critique, elle est inaudible pour ces organisations, puisque de toute façon, c'est un peu faible et l'argumentaire est très faible. Donc, c'est presque plus un argumentaire en disant oh, les méchants. Enfin, il y a pas vraiment quelque chose de très construit et qui se. Enfin, tout est démontable à peu près de façon systématique. Donc à partir de là, c'est inaudible pour les ONG. Ça sert la soupe à tous ceux qui essayent de les démolir en même temps, parce que du coup, on va se servir, voilà, de cet ouvrage assez simpliste, voilà, pour dire bah voyez, regardez ces organisations, finalement, elles nous mentent. Donc pour moi, il est pas chercheur, il est journaliste, mais enfin du journalisme de qualité, il a une fonction sociale, et en fait je comprends pas ce qu'il a voulu faire, ce d'autant plus qu'il se positionne souvent comme quelqu'un qui est censé qui est militant, enfin dans son action de journaliste pour un certain nombre de causes, en particulier écologiques, voilà. Et du coup, moi je trouve que. Et c'est très embêtant parce qu'en plus, dans son ouvrage, il y a beaucoup, beaucoup de travaux hein, sur ces. Depuis maintenant 10, 15 ans, 20 ans, et ils n'y sont pas. Il n'y a aucun de ces travaux.
Plein de travaux qu'il n'a pas lu.
Il n'a pas du tout lu. Du coup, il est dans une espèce. C'est plus une conversation de qu'on peut avoir entre amis le soir sur ces organisations, et ça ne décolle pas trop parce qu'on manque d'éléments, on manque d'informations, on manque de données précises.
De complexité aussi. Du problème.
Voilà. Donc pour moi. Alors. Maintenant, si on arrête de parler du bouquin de Nicolino, mais si on essaye de voir en fait qu'est-ce qui voilà sa question en fait, son hypothèse, c'était effectivement de dire que ces organisations, en travaillant de plus en plus avec soit des entreprises ou des États-nations, se fourvoyaient de plus en plus et étaient finalement récupérées et empêchées. La mise en place de mesures radicales et nécessaires pour sortir de la crise écologique. Alors, c'est effectivement. On peut dire que ça peut être un peu vrai, mais la question, c'est que personne n'arrive vraiment à être dans une posture et vraiment. On va dire à la fois révolutionnaire, c'est-à-dire comment d'arriver à des changements profonds dans les modes de développement de nos sociétés, et tout en étant dans l'action et dans une posture un peu de réformiste en attendant d'aller vers quelque chose de plus radical. Et c'est la question, à mon avis, fondamentale que doivent résoudre ces organisations, et que de toute façon, on doit tous résoudre, quel que soit notre lieu, et on est vraiment aujourd'hui dans
D'accord. Alors, je vais te poser une question assez simple, mais est-ce qu'on peut, tu pourrais nous dire déjà qu'est-ce que c'est qu'une ONG ? Parce que je sais que dans certains, des articles, dans tes, certains de tes articles, tu me dis que ce vocable, en fait, cache une diversité de réalité. Et par exemple, tu as travaillé sur Greenpeace et WWF, et je pense qu'on ne peut pas, et tu le dis très bien, qu'on ne peut pas le mettre sur le même plan en termes de fonctionnement, d'organisation, et même en termes historiques, puisque... donc voilà, est-ce que tu peux me parler de tout ça ?
Alors c'est vrai que c'est une question souvent qui n'est pas, de mon point de vue, assez abordée. En même temps, c'est très pénible d'aborder cette question-là. Moi, bon, maintenant, ça fait bientôt 10 ans, mais quand j'ai écrit ma thèse sur cette thématique-là, j'ai passé 80 pages à dire ce que c'était une ONG pour au final dire qu'on ne savait pas très bien.
Ouais.
Et c'était vraiment quelque chose d'assez rébarbatif et assez pénible. Parce que d'un intérêt, bon, voilà, un peu moyen, si ce n'est que c'est vrai que quand on commence à vraiment s'intéresser à ça, et c'est une question qui apparaît très vite, c'est-à-dire qu'on se dit, mais attends, je travaille sur WWF, qui est une organisation internationale, qui avec un budget de 525 millions d'euros aujourd'hui, qui a des milliers d'employés, de salariés, etc. Bon, et puis, en même temps, je me retrouve avec une petite ONG, enfin, qualifiée d'ONG en Afrique, qui s'occupe des questions environnementales ou d'agroécologie, qui a 2 salariés, qui est complètement... alors, pour le coup, qui, contrairement à WWF, a des fonds complètement de l'État, alors que le WWF, c'est assez... On en reparlera, mais sans doute, mais oui. Bon, ça vient un peu de différentes sources. Voilà, donc c'est complètement impossible voir, d'avoir une vue un peu homogène de tout ça. Alors, du coup, qu'est-ce qui ressort ? Qu'est-ce qui peut laisser penser qu'on est en face d'une ONG ? Bon, voilà. Je pense que la première chose, pour moi, c'est effectivement des organisations qui sont théoriquement à but non lucratif. Ça, c'est quelque chose de... Bon, ça concerne nos associations, hein, qui a un statut un peu particulier, qui portent des valeurs, en tout cas qui défendent des valeurs qui sont visant à résoudre des problèmes écologiques, sociaux, économiques. J'ai pas voulu dire universel parce que ça n'existe pas vraiment, mais il y a toujours une espèce de dimension comme ça qui sont... Enfin, il y a une posture un peu altruiste, en fait, dans la démarche. Et voilà. Et donc... Sauf qu'il y a des ONG qui se cachent derrière ça, mais qui sont à la solde de certains grosses multinationales, etc. Donc c'est toujours aussi très compliqué. Et qui sont censés être au milieu d'un no man's land qui est c'est pas des organisations gouvernementales qui sont rattachées, et ni des organisations liées de trop près, normalement, à des entreprises. Voilà. Du coup, on les met dans la société civile, on les met dans ce que certains appellent le tiers secteur. Le problème, c'est quand on fait un spectre de ces organisations, il y en a qui sont très, très, très proches du secteur gouvernemental. En Afrique, par exemple, beaucoup d'ONG sont des fois créées parce qu'on sait qu'il va y avoir une aide de l'Union européenne
des agences de développement.
Des agences de développement qui va passer par l'État lambda. Et du coup, il va y avoir une somme d'argent sur telle thématique. Donc, on crée une ONG. Enfin, il y en a qui appellent ça des individus non gouvernementaux, d'ailleurs. Mmh. Mais, et on crée une ONG, on récupère l'argent. Après, il y a plein d'ONG qui sont... tout à fait qui sont créés pour de bonnes raisons, mais qui pas opportunistes, mais qui captent cet argent là quand même, et effectivement qui de fait sont presque des agences gouvernementales officieuses ou des organisations, parce que 99% de leurs fonds viennent de l'État. Bon, il n'empêche qu'elles ont dans les modes d'action qu'elles mettent en place, si on nommait les financements, elles sont plutôt arrangées du côté de la société civile, et ça, des fois, leur empêche pas d'avoir une certaine liberté de parole. Il y en a d'autres qui sont financées comme presque des fondations, par des entreprises, à 80-90%. Voilà. Et ça, ces sources de financement posent un certain nombre de problèmes, parce que l'idéal pour... Enfin, l'ONG parfaite, c'est une ONG qui est vraiment au centre de tout ça, qui va récupérer de l'argent d'où ça vient, mais qui est très équilibrée pour moi dans les sources de revenus. C'est-à-dire, c'est des dons individuels, mais c'est aussi, pourquoi pas, des dons publics, pourquoi pas d'entreprises. Je veux dire, ça, la multiplicité de sources financières permet d'arrêter de travailler avec quelqu'un ou facilement, en disant, là, on n'est plus en accord et on ne peut plus recevoir d'argent de votre part.
Donc c'est une contrainte.
C'est une contrainte,
assez massive.
Voilà, mais... Bon, alors du coup... c'est finalement, là, ma définition est un peu insatisfaisante, mais c'est vrai que c'est très, aujourd'hui, difficile. d'arrêter une définition brute. Et c'est pour ça que quand on travaille sur ces organisations-là, si on met de côté le non-gouvernemental, une dimension relativement... L'organisation qui se positionne pour des raisons financières, de type d'action, etc., avec une distance entre le public et le privé, on va dire comme ça, il y a tout un spectre, en fait, d'organisation. On sait juste qu'elles sont censées aussi émaner d'individus qui sont ou d'organismes, enfin elles sont pas censées émaner d'organisations privées et d'organisations publiques, mais il y a ça aussi, donc c'est juste une chose. Moralité, quand on parle d'ONG, il faut essayer toujours de dire desquels on parle,
de garder en tête
les différences d'échelle aussi,
une typicité, voilà.
Pour moi, une ONG, c'est plutôt une organisation qui travaille, qui peut agir localement mais qui a une dimension internationale, qui est au moins dans deux pays, présente dans deux ou trois pays. Mais ça, c'est souvent la définition que je donne. Sauf que quand on parle des ONG africaines, elles ne sont pas dans au moins deux pays.
Oui. Voilà.
Et en fait, pour moi, c'est la différence, c'est plutôt
une différence d'échelle.
Et je parle plus d'associations quand je parle de petites organisations.
Parce que certaines peuvent être réticulaires, quoi, et multinationales d'une certaine manière.
Exactement. Donc c'est très... Voilà, tout ça est très diffus. Donc moralité, quand on parle sérieusement de ces organisations, il faut dire, attendez, je vous parle... Soit vous prenez des pincettes, vous dites, je vous parle globalement des ONG... Voilà, je parle d'une dynamique, etc. Ou je parle de ces ONG-là, et voilà ce qu'elles sont.
D'accord. Voilà. Et donc, à quel moment et dans quel contexte on recourt de plus en plus aux ONG, et à quel moment de l'histoire, finalement, les ONG deviennent de plus en plus présentes sur la scène internationale
et
nationale ?
Le mouvement, il explose vraiment... Enfin, il y a une dynamique très, très... ça émerge vraiment après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Ça démarre un petit peu avant. C'est-à-dire qu'on n'appelait pas... les ONG, de toute façon, le terme ONG était défini un peu par l'ONU, par les Nations Unies, pour finalement définir ce qui n'était pas gouvernemental et ce qui n'était pas privé, des entreprises. On ne savait pas trop où mettre tout ce paquet d'organisations, donc on a parlé des organisations non gouvernementales. Donc ça apparaît là. Et c'est vrai que malgré tout, c'est plutôt dans les années 60-70 qu'on commence à sentir vraiment une explosion. Il y a beaucoup d'organisations qui se créent pour répondre à un certain nombre de problèmes. Et ça, pour moi, l'explosion vraiment majeure, en fait, quand on regarde les courbes de croissance des ONG internationales, par exemple, si on prend que celles-là qui sont au moins présentes dans deux pays, c'est les années 80, où là, vraiment, on passe à... En 10 ans, on a plusieurs milliers d'ONG qui se créent à l'échelle internationale.
Et pourquoi on les qualifiait de société civile déjà au début des années 80-90 et pourquoi on les a souvent associés au mouvement altermondialiste, alors que si on regarde comme ça dans le détail, on peut voir qu'il y a quand même une distance assez énorme entre ce qu'on peut qualifier de société civile, mouvement altermondialiste encore plus et ces ONG.
En fait, ça dépend. Mais moi, je pense que c'est lié au fait qu'elles sont finalement dans le même champ d'action politique, enfin dans le même espace.
Voilà. D'accord. Elles
occupent le même espace politique. Et c'est par exemple dans une vision très très française de ce qu'est l'action, d'où doit se passer la décision du politique, c'est-à-dire plutôt à l'échelle du gouvernement ou de l'État. Tout ce qui n'est pas là-dedans, public d'une certaine façon, on le met dans le même paquet, quoi. Et c'est vrai que il y a une émergence après la chute
du mur de Berlin,
etc. Il y a une réémergence de cet espace-là, cet espace politique qu'on va qualifier de société civile. Encore une fois, le terme société civile est d'une grande complexité.
Et longue histoire.
Et on va mettre toutes les organisations des plus petites militantes, etc., à des plus informelles aux plus importantes. On va les mettre dans cet espace-là. Il se trouve qu'il y a un mouvement, pour le coup, altermondialiste, qui se structure à ce moment-là, et qui va, à mon avis, se structurer autour de la décomposition de l'Est et de l'opposition un peu classique, communiste, capitaliste, socialisme, etc. Donc il y a besoin de se repositionner chacun a besoin de retrouver une place sur cet échiquier. Et ça va à la fois, les ONG vont aussi, ça va être même déstabilisé par rapport à ça. Je pense que typiquement Greenpeace, qui était plutôt sur des lignes dans les années 70, extrême, assez radical, très antiproductiviste, très, qui petit à petit va grossir, va un peu oublier peut-être ce discours plus radical, en tout cas, même dans les actions, ils vont rester sur des lignes assez fortes, mais la dimension politique de leur action et de critique du système,
de contestation
va un petit peu s'affaiblir, et le mouvement intermondialiste va les obliger à se repositionner par rapport à ça, parce que du coup, évidemment, ils vont se retrouver très questionnés
sur leur mode d'action
et sur les logiques qu'elles défendent et qu'elles mettent en avant. D'accord. Donc je pense, alors c'est pas la même chose, c'est très clair, mais je pense que c'est une question d'espace politique et c'est le même. Donc voilà, il y a une espèce de confusion des genres, et il y a quelque chose qu'on oublie souvent quand on parle de cette organisation là, c'est qu'il y a des individus au milieu de tout ça, et ces individus ils passent d'un point à l'autre.
Oui. Ceux qui sont au sein de ces organisations.
Au sein de ces organisations.
Et qui peuvent être dans les Nations Unies.
Exactement. Alors ça peut être soit. Voilà. Ça, c'est pour le WWF plutôt. Mmh. Pour Greenpeace, c'est plutôt des gens qui vont être dans des organismes, finalement. Ce n'est pas les mêmes. Forcément les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes parcours. Mmh. Mais il y a vraiment. Et d'ailleurs, dans tous les travaux, on ne suit pas assez ces parcours-là.
Oui, individuels pour comprendre ce que c'est que ces réseaux.
Parce qu'on analyse souvent les politiques de ces organisations à une échelle. Voilà, on essaye de comprendre quelle est la dynamique, je sais pas, du WWF en Afrique de l'Ouest. J'ai un exemple en tête très précis où un collègue avait écrit un article très pertinent sur la stratégie du WWF et de conservation internationale, une autre grosse ONG américaine de conservation. Et il montrait qu'il y avait vraiment deux dynamiques complètement différentes. Avec une très préservationniste, qui est très excluante pour les populations. Finalement, le WWF, contrairement à beaucoup d'autres endroits, était plutôt à cet endroit-là assez...
Un peu plus ouvert,
essayer de les prendre un peu plus en compte dans les politiques, etc. Voilà, donc il théorise, il explique pourquoi, lui, comment. Et c'est vrai que c'est un peu étonnant de voir ces deux lignes. Donc il est parti du principe que c'était des choix politiques à l'international du WWF, etc. Bon, il se trouve que dans une conversation un peu avec un collègue qui travaille dans cette zone-là, qui fait de la recherche dans cette zone-là, on a compris que le patron du WWF Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Ouest, de l'époque, avait piqué la femme du patron de conservation internationale de l'endroit, et qu'en fait la différence de politique et de choix était tenue en fait à une histoire très personnelle. Et évidemment, alors c'est très anecdotique ce que je raconte là, mais quand on fait une recherche de terrain et qu'on est plutôt dans une approche sciences po et tout ça, c'est vrai qu'il y a souvent, on oublie complètement qu'il y a des hommes derrière tout ça.
Il y a des trajectoires.
Alors évidemment, on s'intéresse plus aux trajectoires en termes de formation, en termes d'action, en termes de logique qu'ils y portent, mais évidemment que tous ces éléments sont absolument fondamentaux et que des fois, on va faire des énormes théories sur un certain nombre d'une dynamique. De fait, il y a une dynamique. Je veux dire, l'article de l'ami, du collègue et ami, n'est pas du tout invalidé parce que ce qu'il a analysé est très pertinent, etc. Mais le pourquoi du comment de l'histoire, dans un autre contexte, il ne faut pas trop tirer le fil parce que ça aurait été sans doute, peut-être qu'ils auraient pu travailler ensemble complètement, quoi, et pas partir sur des logiques et des politiques complètement différentes.
Et ce qui est aussi assez très intéressant, c'est qu'on voit aussi que la qualification de société civile pour ces ONG apparaît à un moment donné où elle se professionnalise. Et ça, c'est assez étonnant comme...
C'est vrai qu'en plus, c'est ce qui pose d'ailleurs problème d'une certaine façon, parce que la société civile, on peut la voir dans... Bon, il y a plein de définitions, mais c'est quand même un espace relativement... organique qui se... Et d'un seul coup, là, on a des organisations qui sont... le problème, il est là, c'est qu'ils se positionnent comme représentantes de la société civile. Et c'est cette notion de « je représente tout ce qui n'est pas gouvernemental et tout ce qui n'est pas privé ». Enfin, voilà. Et bon, il se trouve que pour certains chercheurs, philosophes, etc., la société civile, c'est aussi le public. Enfin,
bien sûr.
Donc c'est un vrai problème, cette professionnalisation pose un vrai problème, parce que elle implique parfois une déconnexion avec ce que justement ils appellent ces acteurs ou ces ONG, enfin les responsables de ces ONG appellent la société civile. C'est-à-dire que la professionnalisation, le fait de travailler de plus en plus avec des agences de l'ONU, avec la Banque mondiale, avec certains gouvernements ou ministères, etc., impose évidemment une professionnalisation. C'est-à-dire qu'on devient des professionnels dans la façon de monter les dossiers, dans la façon, dans les échanges. On intègre en plus le discours et les modes de fonctionnement de ces instances internationales. Et ça conduit à une déconnexion du terrain, une déconnexion de ce que la société civile, je mets des guillemets, on ne voit pas, mais demande. Et ça déconnecte souvent aussi d'un vrai bottom-up, c'est-à-dire de construire des politiques à partir des besoins et locaux. Et là, il y a une vraie difficulté par rapport à ça, c'est-à-dire que dans beaucoup de... c'est un problème avec ces grosses organisations qui deviennent vraiment... les deux sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, le WWF, c'est, je le répète, c'est 525 millions d'euros.
C'est énorme.
C'est beaucoup plus que le programme des Nations Unies pour l'environnement, je crois que c'est 4 ou 5 fois plus. Enfin, c'est... Bon, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est un peu augmenté, mais j'ai plus les chiffres récents, mais Greenpeace, c'est, je ne sais plus exactement le chiffre, je crois que c'est 226 millions d'euros là, récemment. Et ça, c'est stabilisé, c'est-à-dire que depuis 10 ans, on est à peu près sur ces chiffres-là. Voilà, donc c'est des sommes astronomiques.
On sent la différence entre Greenpeace et WWF. WWF a beaucoup d'apports d'entreprises, rien que sur le budget.
Ça, c'est très clair.
Absolument.
Ouais. C'est très clair, c'est-à-dire que pour ce qui est de... Si on va là-dessus, mais c'est quelque chose d'intéressant pour montrer d'ailleurs le problème de lien avec cette société civile. Le WWF, c'est 57% des fonds, donc des sommes que je viens de citer, c'est des particuliers.
C'est les dons, quoi.
C'est les dons, on va dire. Individuels. Après, il y a les gouvernements, les agences d'aide, etc., qui donnent 17% de cette somme. Il y a des royalties qui viennent de revenus financiers, parce qu'ils placent l'argent. Alors, je ne sais pas si c'est j'ai jamais pu trop savoir où ils plaçaient cet argent. Et ça, c'est intéressant de regarder un petit peu s'ils font gaffe un petit peu à ce qu'on fait de cet argent. Et bon. Mais voilà, c'est 8% quand même de la somme. C'est pas rien, et ça prend de plus en plus de place. Et puis, il y a les legs et les entreprises, c'est 11%. 11% sur 525 millions d'euros, c'est énorme. Et ça ne cesse d'augmenter. On est passé, c'était 4% en 2000. Et ça, c'est en train de prendre une place de plus en plus importante. Ce qui prouve qu'il y a quand même une relation entre les financements et les choix qu'on fait.
Tout à fait.
Donc ça, et pour Greenpeace, évidemment, inversement, Greenpeace a fait le choix depuis le début de refuser tout argent d'entreprise ou d'État ou d'agence d'aide, etc.
Et ça, c'est resté inscrit dans sa...
C'est resté inscrit. Donc, ce qui permet du coup à Greenpeace, d'ailleurs, de revendiquer peut-être plus fortement que le WWF d'être bien représentant de la société civile, etc., parce que les dons ne viennent que de cette société civile, a priori, si on considère que tout ce qui n'est pas gouvernemental ou entreprise... le problème de ça, c'est qu'effectivement, on ne dépend que d'une source de financement.
Ouais,
ça, donc on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ça implique des stratégies en termes de communication et en termes d'existence pour les potentiels donateurs qui sont pas neutres.
Oui, d'accord. Et c'est vrai. Mais ce que tu as noté, effectivement, c'est que l'implication, on va dire, du secteur privé devient de plus en plus croissant depuis 2000, mais que c'était inscrit
autant des années 90. C'est inscrit, oui. Alors, en plus, ça dépend des organisations. Mais, ça résonne avec le bouquin de Nicolino, qui parle beaucoup de ça.
Oui,
qui
c'est montre, ça qu'il
a pointé en premier. Alors, évidemment, il prend en particulier la fondation Nicolas Hulot, qui ne s'appelle plus comme ça maintenant, mais il prend le WWF.
France,
en plus, oui.
Tout en faisant une généalogie d'international.
Bon, mais de fait, c'est des organisations qui... C'est vrai, revenons au WWF, mais WWF, depuis le début, c'est une organisation qui a été créée en 1961, qui a été créée... au début, pour récupérer des fonds pour l'Union internationale de conservation de la nature.
Absolument, oui.
Et du coup, Ils ont été du coup, très efficaces d'entrée, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place des modes...
Ça a été créé, porté par Julian Huxley, qui avait été directeur général de l'UNESCO.
Le premier directeur.
Ouais. Max Nicholson, un grand environnementaliste anglo-saxon.
Après, il y avait d'autres personnes dans les fondateurs. Il y avait Victor Stola, qui était un homme d'affaires d'origine tchèque.
D'accord.
Il y avait Peter Scott, qui était
un naturaliste
et présentateur dans les années 50 d'une émission qui s'appelait Look, qui était très connue dans le programme de TV britannique. Moi, je ne connaissais pas vraiment, mais bon, c'est pas grave. Apparemment, c'était une émission très importante. Voilà, il y avait Moonford, qui était le directeur d'une agence de publicité.
D'accord.
Et qui était quelqu'un qui a été essentiel parce qu'ils avaient un publiciste avec eux. Ça a aidé un tout petit peu pour mettre en place
des projets. C'est lui qui a choisi le logo.
Sans doute. Oui, il a été un des acteurs importants. Je crois que c'est Huxley. Mais ils ont été très, très bons et très bons communicants dès le départ. Et ça a très, très bien fonctionné. Ça a tellement bien fonctionné. Très vite, ils sont un peu indépendantisés. Et ils ont dit, on va monter des projets et des programmes.
Ouais, et ils ont cherché même à se dissocier de l'UICN. Et il y a encore un conflit actuel entre ces deux. L'UICN qui n'est pas totalement non-gouvernemental, qui est semi-gouvernemental et non-gouvernemental.
Voilà. Mais en fait,
et qui a un budget quatre fois plus petit que WWF.
Exactement. Et en fait, le problème de ça, c'est que c'est intéressant parce que l'UICN est considéré par certains comme une ONG. Enfin, je veux dire, quand on l'a accueilli... Sauf que, de fait, pour moi, c'est une agence officieuse de l'ONU qui s'occupe de conservation de la nature. Quoi. C'est pas... Et il y a des entreprises à l'intérieur, il y a les membres...
Il y a des cimentiers, notamment, Holcim.
Oui, effectivement. Mais le WWF n'est pas fondamentalement différent dans la conception, parce qu'il a été porté par l'aristocratie anglaise aussi, qui était très présente dès le départ. Il y avait des grands... les entreprises étaient très présentes dans le bureau international. Il y en a un qui est évoqué, je crois, dans le bouquin de Nicolino, qui s'appelle Anton Rupert, qui a été dans le conseil, présent dans le conseil d'administration international, qui a pris, je crois, un petit moment la présidence du WWF international et qui avait un empire financier en Afrique du Sud, autour du tabac. C'était Dunhill, Rothman, Cartier, etc. Toutes ces cigarettes...
Tapageuses,
on va dire ça comme ça. Voilà. Et c'était l'un des hommes les plus riches d'Afrique du Sud dans les années 70, en pleine apartheid. Hein.
D'accord.
Donc c'est pas...
Oui, c'est...
Alors évidemment, quand si on regarde ça, on se dit WWF, c'est quand même un nid de grands entrepreneurs plus ou moins fréquentables, là plutôt moins que plus, au regard de la dernière personne que j'ai citée. Lui, il a créé le club des Mi-1, qui était des chefs d'entreprise et aristocrates, pour amener de l'argent régulièrement. Et le club était présidé par le prince Bernard.
Voilà. Prince Bernard, c'était de quelle nation ? La Hollande, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ouais, okay. Mais évidemment connecté à la couronne d'Angleterre, etc. Mmh. Donc, du coup, bon, tout ça, si on regarde cet élément-là, ça va évidemment dans le sens de ce que peut dire Nicolino. Et le conseil d'administration, on retrouve des pétroliers. Hein, on retrouve... des grandes entreprises pharmaceutiques. Voilà. Alors, quand on parle de biodiversité, c'est sûr que voilà, les brevets sur le vivant, sur des molécules de plantes amazoniennes, ça, voilà, quand on sait qu'il y a des grandes boîtes pharmaceutiques dans le conseil d'administration, ça peut poser des petits problèmes existentiels. Voilà. Après, c'est vrai que c'est une réalité. Et du coup, le WWF n'a jamais été dans une posture extrêmement contestataire. Parce qu'ils ont tout de suite été... Bah, voilà, un des fondateurs, c'est Huxley. Il était premier directeur de l'UNESCO.
Et puis, c'était une élite. Hein, voilà. une élite anglaise, aristocratique.
Exactement. Et ils ont tout de suite fonctionné en main dans la main. Mais presque comme l'UICN. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas si différent avec les instances internationales et avec les États.
Aucun Français dans ces instances, enfin dans cette élite, on va dire responsable concernant.
Si, en l'occurrence, il y en avait quelques-uns dans le conseil d'administration. Les noms ne reviennent pas là, mais il faut savoir que l'UICN a été créé quand même à Fontainebleau
en 1948,
ouais, ouais. Et qu'il y a toujours eu. Bizarrement, en fait, c'était quand même beaucoup plus... Pour le WWF, c'était clairement...
C'est britannique. C'est britannique.
Comme Greenpeace.
Oui, comme Greenpeace. Si ce n'est Greenpeace a eu du mal à s'implanter en France, mais que l'arrivée en Europe a été bien aidé par certains Français, dont Brice Lalonde d'ailleurs, mais bon, qui y avait des connexions, alors c'était connecté aussi aux Amis de la Terre à l'époque, à Friends, la connexion était plus forte, mais il y avait un peu plus de connexions dans des réseaux un peu alternatifs, écolos, alors que le WWF, c'était quelque chose d'extrêmement... très anglo-saxon, même, dans la conception de leur action, qui était...
Dans la vision de la protection de la nature, qui était enracinée...
Très conservationniste, voire préservationniste.
La chasse aristocratique.
Voilà. Et en fait, les premiers lieux d'intervention, je me suis amusé à faire des cartes dans mon travail de thèse, et où on voit très très bien, en fait, que ça démarre dans le Commonwealth, quoi. Enfin, il y a un peu dans certaines zones... en Europe, hein, évidemment, c'est très actif, mais les grands espaces qu'on met en protection, et c'est des espaces en fait qui sont dans l'ancien Commonwealth et dans les anciennes colonies anglaises, quoi.
On va reprendre ça dans quelques minutes, on va faire une pause musicale. Bon, on a mis trio, toi et moi, c'était... Voilà, et puis après on va parler de développement durable, de l'émergence de la notion et de d'autres choses encore.
Ce matin, 3000 licenciés, grève des sapeurs-pompiers, embouteillage et pollution pour Paris agglomération. Ce matin, l'abbé Pierre est mort, on l'enterre sur TF1, deux clochards retrouvés morts près du canal Saint-Martin. Ce matin, le CAC va de l'avant, deux soldats de moins pour l'Occident, 10 civils de tués à Bagdad dans les bras sanglants du djihad. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Ce matin,
menace de grippe aviaire, trop de fascisme en Bavière, l'Iran travaille au nucléaire et Areva squatte le Niger.
Ce matin,
rapport sur le climat, il ne survivrait que les rats, fond des glaces en Alaska et grosse chaleur en Angola.
Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là, on s'aime. Voilà, on s'aime, toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime.
Se meurt sous les balles d'une Chine qui fait son capital.
Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime.
Ce matin, il fait presque beau. Ça tombe bien, je me suis levé tôt, avec le coq et les oiseaux, sans journaux et sans météo.
Ce matin, j'attaque un autre jour. Avec toi, mon amour, cette journée durera toujours, on n'en fera jamais le tour.
Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là, on s'aime et puis voilà, on s'aime, toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime.
Vous Vous êtes bien sur Zoom Écologie 106.3, l'émission de 20h30 à 21h30 consacrée aux problématiques environnementales. Nous sommes avec Denis Chartier, maître de conférence à l'Université d'Orléans, qui a fait sa thèse sur les ONG environnementales. Denis, est-ce que tu peux nous expliquer comment ces ONG internationales, comme WWF par exemple, se sont imposées comme des acteurs clés de la gouvernance environnementale internationale, hein, par quelle stratégie ?
Alors, pour ce qui est du WWF, c'est vrai que je pense qu'un des éléments importants, c'est qu'elle était extrêmement connectée aux instances internationales, que ce soit la Banque mondiale, l'ONU, etc. Et que d'ailleurs, les bureaux, il y avait des bureaux très, très proches de ces instances. Et quand on parlait tout à l'heure de suivre des individus, on trouve des gens qui vont du WWF à Washington à la Banque mondiale et vice-versa. Mmh. Donc il y a des liens très, très forts. Voilà.
Banque mondiale, dont on doit dire qu'elle est la première banque de financement des projets de développement et qui fait des prêts aux pays majoritairement du Sud.
Du Sud.
Bon, depuis la crise économique.
C'est un peu plus compliqué, mais en même temps, c'est une banque qui a été fortement critiquée par les ONG et qui a parce qu'on sait très bien que les mesures qui ont été mises en place et les prêts qui ont été faits sur certaines conditions qui ont épuisé les pays du Sud, on parle des ajustements structurels, etc. D'ailleurs, ce qui ne sont pas très très loin de ce qu'on essaye de mettre en place en Europe aujourd'hui dans les modalités. Ça c'est une parenthèse. Mais il se trouve que du coup, elles ont énormément financé les ONG. Et les ONG, en fait, plutôt que d'être dans une posture très très d'opposition avec certaines qui étaient extrêmement critiques, elles ont joué avec celles avec qui elles pouvaient avoir un dialogue et une discussion. Voilà, la carte de l'accréditation, et en leur disant voilà, vous êtes des acteurs et vous participez au débat. Ça a été pareil avec l'Organisation des Nations Unies. Hein. C'est-à-dire que pendant très longtemps, elles étaient en parallèle des grands regroupements autour des questions d'environnement, de développement, que ce soit en 72, le sommet de Stockholm. Mais petit à petit, ce sont des organisations qu'on a écoutées et qu'on a intégrées au système. Et c'est vrai que à partir du sommet de la Terre de Rio, en fait, on a donné des accréditations et ces organisations étaient autorisées à participer au PrepCom, c'est-à-dire aux séances préparatoires de ces grandes conférences qui sont censées rédiger le principal des textes qui vont être ou des
la conventions,
convention. La convention qui va être validée. En fait, finalement, au sommet, on discute que les endroits où on ne s'est pas mis d'accord. Enfin, c'est un peu ça le principe. Et ces organisations participent à ça, participent au débat. Alors évidemment, elles n'ont pas la possibilité de voter ou quoi que ce soit, mais elles sont vraiment là. Et elles ont tellement... D'ailleurs, elles sont parfois presque plus présentes, parce que beaucoup de pays, par exemple africains, ne peuvent pas envoyer des délégués pour des questions financières. Et voilà. Et en fait, il y a des deals qui sont passés pour que, en fait, dans la délégation officielle, on est des membres des ONG. Et en fait, les ONG payent la délégation. Donc là, il y a aussi des procédés qui sont mis en place pour que, en fait, elles soient présentes à plus d'endroits pour influer sur les négociations. Ça, c'est pour le WWF, du coup, est très, très présent et un acteur, à mon avis, clé dans beaucoup de négociations aujourd'hui.
Avec
l'UICN.
Conservation International, voilà. Et puis, je ne sais plus, Nature Conservancy.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ils ont un rôle vraiment fondamental. Après, pour une organisation comme Greenpeace, ils sont de plus en plus présents aussi au sein de ces instances. Et ils ont fait le choix d'être de plus en plus des acteurs dans les négociations, ou en tout cas dans les prémices des négociations. Ils sont aussi très souvent... Dans une espèce de logique de... Et ça joue beaucoup sur l'influence qu'ils peuvent avoir et l'écoute qu'on peut avoir de ces organisations. C'est-à-dire qu'ils ont été dans un moment pour dire, voilà, on met en avant des questions fondamentales qui doivent être mises aux agendas des instances internationales. Et ça, ils l'ont fait de mieux en mieux. C'est-à-dire que, alors avec le WWF était moins bon, on va dire, que Greenpeace là-dessus. C'est-à-dire qu'ils étaient plus une organisation qui travaillait avec les acteurs de la gouvernance mondiale, si on peut s'exprimer ainsi.
Oui, c'est ça.
Mais qui était sur le terrain en mettant en place des politiques de conservation ou en travaillant avec les États à la surface de la planète. Greenpeace était de toute façon plus dans une posture de position, d'amener des questions aux agendas internationaux ou nationaux, et avec leur marque de fabrique qui est l'action coup de poing, où on intervient à un moment donné et dans les médias pour soulever des questions, et finalement amener qu'il y ait une espèce de pression politique, de mobilisation, alors voilà, de ce qu'on appelle la société civile, en tout cas de futurs électeurs potentiels des politiques aussi, ou de consommateurs, pour qu'il y ait des changements de comportement ou des changements de pratiques. Et c'est vrai que cette capacité d'action et de mobilisation d'un espace politique leur a permis d'amener des questions aux agendas internationaux et d'influencer.
Donc
et
ça, c'est d'où l'intérêt de ne pas démonter comme ça, dans cette totalité, d'emblée les ONG internationales, parce qu'effectivement, elles ont apporté, mis à l'agenda des choses.
Après, dire que quand on amène des questions, par exemple sur les questions de déforestation, que Greenpeace est sur des postures très radicales, zéro déforestation en Amazonie, par exemple.
Ça, on peut en parler, on critiquer.
Ouais, on peut dire, voilà, non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas... Mais bon, la question, en tout cas, elle est à l'agenda. Et il y a des discussions qui sont engagées à travers ça. C'est Greenpeace et WWF, et puis quelques autres, qui ont créé le Forest Stewardship Council, qui c'est ce label, et cette organisation qui valide le label de certification des forêts. C'est très critiquable. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas bien. Il n'empêche que c'est des plus, c'est des avancées, c'est des débats.
Ce sont des alternatives.
C'est des alternatives qui sont créées. Voilà. Même si elles sont tout à fait critiquables, il y a des tentatives de construire d'autres choses. Et voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose souvent, quand on commence à critiquer ces organisations-là, on dit, voilà, elles font n'importe quoi, elles sont dans des contradictions insurmontables, etc. Et ce que je pense, c'est que c'est pas... très vite, on tombe sur des gros machiavéliques. Et c'est pas le cas.
C'est plus complexe que ça.
C'est beaucoup plus complexe.
Johan qui veut poser une question.
Oui, est-ce que vous avez évalué l'efficacité réelle de ces associations?
Oui, alors... Un peu sur le terrain, oui. Alors, typiquement, ça a été un de mes travaux, en fait, qui souvent, on a beaucoup de réflexions sur ces organisations qui se placent sur... On regarde ce qui se passe au niveau des instances internationales. Et moi, j'étais assez critique du fait que dire, voilà, il y a des questions. Peut-être que c'est difficile de savoir si c'est... si à l'agenda international, on aurait eu cette question-là sans Greenpeace ou sans le WWF. Voilà, ils sont là. Je pense que quand même, c'est un plus. C'est un plus. Mais il y a aussi des dynamiques sociétales, etc., qui font que ces questions, de fait, elles seraient arrivées. Peut-être moins vite.
C'est difficile de savoir après de quelle part...
Par contre, sur le terrain, en termes d'efficacité... Je peux vous donner un exemple sur une campagne que j'ai suivie en Amazonie où Greenpeace est intervenu. Ils étaient dans des campagnes très... on critique la déforestation, l'exploitation de... l'arrivée d'agriculture productiviste, en particulier d'élevage sur certaines zones, et l'exploitation de la forêt. Mais ils avaient du mal à s'ancrer localement, et surtout au Brésil, si on ne travaille pas avec les populations locales, c'est compliqué, parce qu'il y a une société civile, pour le coup, très structurée, nationale, etc. Et ils ont travaillé dans un endroit précis pour lutter, pour aider des populations locales.
Quel endroit ?
C'est pas loin de... un front pionnier amazonien. L'endroit, c'est Porto de Mos, c'est près d'Altamira. C'est un endroit où on entend parler un petit peu actuellement. Il y a un gros barrage qui est construit qui s'appelle Belo Monte.
Oui, mais ça part capoter, ça ?
Non, ça capote. C'est ralenti, mais ça fait 20 ans et je pense qu'ils vont quand même finir par nous le construire, ce barrage. Oui. Et du coup, c'est dans cette zone-là. Et en fait, c'était une zone qui était... Les populations locales étaient très sous pression de grands propriétaires terriens et de grands... de coupeurs de bois, voilà, bon, et en fait, donc je suis allé voir un petit... Et Greenpeace a aidé ces populations à obtenir ce qu'on appelle des réserves extractivistes, qui sont des réserves gérées par les populations locales.
Ah oui.
Et du coup, donc il y a un contrat qui est passé avec l'État fédéral, on autorise les populations à rester sur cette zone, à gérer cet espace avec leurs pratiques traditionnelles, avec des limites imposées sur un certain nombre de pratiques. Ils ne peuvent pas faire de l'élevage, ils ne peuvent pas devenir des grands propriétaires terriens, en quelque sorte. Et ils doivent prolonger des pratiques traditionnelles qui préservent les écosystèmes.
Les sources de revenus leur reviennent directement
en grande partie. Ils créent des coopératives. Bon, c'est dynamique intéressante. C'est vraiment, on intègre les populations aux politiques de conservation. Oui. Et ça ne limite pas leur développement. On essaye de créer, de favoriser des logiques de développement un peu alternatives et intéressantes.
Écologiques, voilà. Écologique.
Donc, c'est un modèle qui marche très bien. Greenpeace a aidé ces populations à obtenir la réserve. Et ils avaient du mal à se faire entendre au niveau national et international. Évidemment, Greenpeace est arrivé. Et en un mois, ils ont communiqué au niveau international. Ça a super bien fonctionné. Sauf que, de fait, une fois que Greenpeace a été parti, ils ont eu la réserve. Mais ils n'avaient pas du tout pris le temps de regarder ce qui se passait sur le terrain. Ils n'avaient pas pris le temps de voir si vraiment ces populations traditionnelles avaient vraiment des pratiques durables. Et bah, c'était un peu plus compliqué que ça. Donc les populations ont réussi à avoir la réserve. Il y en a quelques-uns qui ont un peu détourné le processus et qui sont en train de devenir des grands coupeurs de bois. Voilà, parce qu'en fait, la seule truc traditionnel qu'ils avaient exploité, c'était le bois. Mmh. Donc voilà, ce n'était pas très bien prévu. Et quand Canicule s'est parti, il y a eu quelques tensions très fortes parce que ça a créé tellement de tensions localement que il y en a un des leaders de ce mouvement-là s'est baladé pendant un an avec un gilet pare-balles parce que le grand propriétaire terrien du coin, qui était aussi le maire de la région, a envie de le tuer. Bon voilà, mais alors ça a marché parce qu'ils ont eu leur réserve extractiviste, ça a aussi fonctionné, ça a presque protégé les activistes du coin parce qu'ils savaient très bien que s'ils le tuaient, il était devenu au niveau international le grand méchant. Donc c'est compliqué, ça protège d'une certaine façon, ça a été très efficace. Mais en même temps, ça a été un peu trop vite parce que Greenpeace était sur sa propre logique de communication. Et...
D'accord. Voilà. Moi, je voulais revenir vite fait deux secondes sur un truc qui m'a. Tu voulais poser une question, Yoann ?
Une anecdote, oui, parce que cet exemple me rappelle un exemple actuel qui se fait, je crois que c'est dans les forêts d'Afrique. Plus de précision, j'en aurais pas. Où ils sont en train de faire l'exploitation respectable, enfin durable, et surtout respectable des traditions des tribus locales, et où on voyait un chef tribal qui se baladait dans la forêt, qui marquait les arbres avec un GPS pour pouvoir les éviter qu'ils soient coupés et voilà. Donc mais bon, c'est assez intéressant sur l'idée, mais quand on réfléchit un petit peu avec des compétences écologiques, on sait très vite que l'arbre, s'il a pas son environnement autour de lui pour le protéger, il va très vite mourir. Donc au final, ça revient au même. Voilà, donc c'est ce genre d'action qui...
Et moi, j'ai plein d'autres exemples avec le WWF en Indonésie où ils ont travaillé avec des populations locales. J'avais suivi ça avec un anthropologue chez les Dayak. Il se trouve qu'ils arrivent. Ils voulaient, c'était une époque où le WWF essayait de faire participer les populations locales aux politiques de conservation. Mais c'était et ils développaient ça au niveau international. Hein, donc toutes les subventions allaient sur des programmes participatifs.
Oui, oui. Et ils sont arrivés dans CDP.
Voilà, ils sont arrivés dans cette zone-là. Ils ont envoyé des juristes et anthropologues travailler chez les Dayak pour identifier des pratiques traditionnelles. Ils se sont aperçus que les Dayak traditionnellement préserver des espaces de forêt, c'est-à-dire des forêts protégées, qui s'appellent Danaoulen, mais c'était quelque chose de traditionnel. De fait, il y avait une faible pression démographique, donc c'était relativement préservé, mais l'objet n'était pas la préservation de ces espaces-là. Et c'était réservé au chef du village. Et c'était le seul truc qui restait avec l'État indonésien, comme des restes des pratiques traditionnelles. Et ils ont transformé forêt réservée en réserve forestière dans les textes. Les anthropologues leur ont dit, les juristes, non, c'est pas ça, attention, vous pouvez pas construire un projet là-dessus parce que ça va être fragile, et ils l'ont fait quand même. Et ils ont construit, donc c'est les réserves forestières, les forêts réservées sont devenues des réserves forestières. Et derrière, quelqu'un qui arrivait en allant voir le chef du village, en disant, dis donc, les bois d'encens que tu as dans cette forêt, ça m'intéresse, tu te donnes un billet. Le mec lui disait, pas de problème, vas-y, c'est ma forêt, c'est moi qui décide des accès à cette forêt, les esclaves traditionnels de mon truc, ils y vont si je le décide. Et voilà, après, ça dépend de l'individu, le chef du village. Et construire un projet autour de forêts, de réserves forestières traditionnelles, c'était complètement une erreur. Et ça, c'est-à-dire que l'international, on développe des concepts, des idées très belles, et on les valide. Parce que ce qui est intéressant, c'est que j'avais été aperçu qu'il le validait, l'exemple donné par la Fondation Ford, qui est un gros financeur, quelques années après, pour dire il faut faire des projets comme ça. Et c'était l'exemple que je viens de vous donner.
D'accord.
Et c'était ça qui validait toutes les
politiques. Qui les impose au niveau international et qui cherche après à réappliquer au local.
Donc il y a des vrais problèmes là-dessus. En même temps, il y a d'autres projets. Évidemment, on est dans un regard critique, qui sont intelligents, qui marchent très bien, et qui, parce qu'il y a des individus qui savent bien que si on marque au GPS des arbres et qu'on enlève qu'il faut avoir une pensée complètement écosystémique et que les populations, elles ont des interactions avec cet écosystème et qu'il faut jouer là-dessus et qu'il ne faut pas être dans une logique presque comme pouvait faire l'ONF dans les années 70.
Je voulais revenir rapidement sur le rôle croissant des ONG, puis après on va parler de l'émergence d'une notion de développement durable. Je pense à un article de Mac Chapin, Challenge to Conservationist, je ne sais pas si tu l'as tu l'avais lu. Et dans lequel il fait une critique un peu à la Nicolino peut-être, hein, radicale, mais surtout des big ONG, parce qu'il il essaie de démontrer comment les trois big ONG que sont WWF, Conservation International et The Nature Conservancy, au fur et à mesure, à partir des années 90 jusqu'à aujourd'hui, hein, maintenant, ont capté la majorité des financements bilatéraux et multilatéraux, et que du coup, elles ont, par cette captation, entraîner la disparition ou l'affaiblissement de d'autres ONG qui étaient peut-être sur des agendas un peu plus sociaux ou humains. Et je voulais aussi noter aussi le pourquoi les ONG comme ça prennent une part de plus en plus croissante à partir des années 90 et au point qu'on a pu parler aussi d'ailleurs d'un tournant néolibéral de la conservation pour WWF, The Nature Conservancy, c'est parce qu'on met en place à partir des années 80 dans les pays du Sud, notamment en Afrique, des politiques d'ajustement structurel qui entraînent donc un désinvestissement de l'État dans les politiques de conservation et de protection de la nature et qui va laisser un fossé que les ONG vont pouvoir remplir. Et ce qui, en retour, va entraîner, de la part des ONG, vu que les États se désinvestissent de ces politiques-là, une recherche de fonds et donc se tourner vers le secteur privé. Et on voit qu'on a comme ça une concomitance entre eux, effectivement.
Ouais, complètement. Mais c'est vrai que ce processus-là, et c'est vaut pour le WWF, c'est un auteur qui est Étienne Rodary qui a parlé de... il fait un papier qui s'appelait... ils ont parlé de fantasme d'État des ONG, Afrique en particulier. Et c'est vrai que particulièrement intéressant de voir à quel point certaines ONG sur le elles sont conseillères des États. Ça vaut pour Madagascar, par exemple. Elles conseillent l'État en termes de politique
Madagascar,
de conservation.
C'est un exemple.
Et elles conseillent l'État sur les politiques à mettre en place en termes de conservation. À côté de ça, c'est quand il y a des appels d'offres pour gérer tel parc, c'est elles qui répondent. Donc elles gèrent les parcs. Mais du coup, gérer un parc, ça veut dire qu'elles sont... c'est un énorme territoire qu'elles gèrent. C'est-à-dire que normalement, évidemment, le territoire national, il est géré par des services publics, etc. Enfin, dans une conception. Et là, pour le coup, c'est complètement géré par des ONG.
Beaucoup américaines.
Et voilà, la plupart du temps. Et c'est vrai que malgré des discours... De prise en compte des pratiques des populations locales, en particulier en Afrique, c'est très compliqué et on est dans des logiques souvent très excluantes pour les populations locales qui sont considérées comme des d'enjeux perturbateurs des écosystèmes.
Aujourd'hui, on a encore beaucoup d'évictions. La création de parcs nationaux entraîne une éviction massive d'habitants, de populations rurales. Et je crois qu'il y a des tentatives pour créer un concept de réfugiés comme ça, environnementaux.
Alors, c'est vrai que ça, à côté de ça, moi qui travaille plus côté amazonien, pour le coup, là, on a vraiment tout un mouvement socio-environnementaliste qu'on appelle au Brésil, etc., Et de par l'Amazonie et des populations traditionnelles considérées quand même maintenant, c'est un petit peu dans les têtes des personnes les moins au fait de ces questions-là, comme les jardiniers de l'Amazonie, on voit très bien qu'il y a une interaction très forte entre les populations locales et l'Amazonie. C'est-à-dire que cette forêt primaire, elle est ce qu'elle est parce qu'elle a été d'une certaine façon cultivée certains endroits.
Et puis qu'elle n'a pas forcément été primaire de...
Pas du tout.
Comme on le raconte.
On retrouve des traces humaines absolument partout. Il y a plein d'espaces. Plein d'espèces se sont développées parce qu'il y a eu l'intervention humaine, etc. Et on met en place des politiques de conservation. Et même ces ONG qui sont en Afrique très agressives et très excluantes, en Amérique latine, parce que c'est pas possible, même de par le contexte politique, elles mettent en place des politiques impliquant les populations locales beaucoup plus. Et des fois, ça fonctionne plus ou moins bien, mais ça fonctionne. Et en tout cas, l'idée me semble intéressante. C'est vrai qu'en Afrique, on a un vrai problème. Il y a eu des tentatives pour essayer d'amener les populations et d'arrêter dans une logique de dire vous êtes les responsables. On voyait bien que de toute façon,
vous êtes responsable de la dégradation.
Si vous excluez les populations, dès que l'État s'affaiblit ou dès que l'acteur principal de protection disparaît, vous êtes dans une situation... la première chose que font les populations, parce qu'ils ne savent pas, qui est un peu exclue d'espace auquel elles avaient accès traditionnellement, c'est d'y retourner et de prendre tout ce qu'elles peuvent prendre. C'est logique, c'est une réaction tout à fait saine. Normale.
Oui, logique. On va essayer de terminer, on ne reste plus que 5 minutes, donc on va essayer de parler maintenant... tu as fait un article sur l'émergence de la notion de développement soutenable ou durable, Sustainable Development. Est-ce que tu peux nous dire... à quel moment de l'histoire cette notion apparaît, et puis de faire une sorte de généalogie pour essayer de bien comprendre cette expression cache disons, deux visions contradictoires ou antagonistes.
Alors, c'est vrai que l'idée de développement durable émerge vraiment dans les années 60-70. Enfin, on commence à... C'est pas sous le vocable développement, enfin, sustainable development, traduit par développement durable en France. Et il y a beaucoup de débats dans les années 70 qui sont connectés à une critique de la société de consommation, du productivisme, etc., qui amène en fait à percevoir les limites du modèle dans lequel on est. Et du coup, on se dit, bah voilà, il faut peut-être essayer de construire un autre modèle. Ça a du mal à prendre. Il y a des concepts comme éco-développement, de l'assistage qui émergent, etc. Et en fait, ça se stabilise pour des raisons, on n'a pas beaucoup de temps, mais pour des raisons aussi politiques, sur quelque chose d'un petit peu moins...
Et institutionnel.
Un peu moins fort que l'éco-développement qui était très
chargé. Un peu
chargé,
plus consensuel. Hein.
Ça va vers sustainable development. Et le premier texte qui a une dimension internationale où apparaît la notion... C'est un texte rédigé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, mais aussi l'USN, mais le WWF est co-signé par l'UNESCO et la Banque mondiale.
Mais qui a été très difficile, hein, l'élaboration.
Qui a été très compliqué, oui. Ça a duré plusieurs années. Et ça a été, voilà. Et où on parle clairement de développement durable avec deux définitions. Une définition, quand on regarde un peu dans le détail, qui est assez radicale, qui est de dire les modes de développement doivent être déterminés par la capacité de reproduction des écosystèmes. Du coup, on évalue ça scientifiquement, et c'est ça qui impose la limite du modèle de développement qu'on met en place. Ça
veut dire qu'on... Ce sont des limites écologiques au développement qu'on ne peut pas dépasser.
Donc on pose des limites et on accepte les limites. De l'autre côté, il y a une définition, et c'est tout le rapport, il parle de... Il est très, très, comme à l'époque, avec un retour très néolibéral, donc assez néolibéral, où on propose, il faut que les échanges entre les différents pays augmentent, etc., pour sauver l'Afrique, il faut des marchés, etc. Et du coup, en fait, le développement durable est une version un peu... On se pose la question de savoir comment faire durer le développement, avec une vision très classique du développement. C'est-à-dire que il faut d'abord résoudre la pauvreté, et qu'à partir du moment où on aurait résolu la pauvreté, on va résoudre les problèmes environnementaux, comme on l'a fait d'une certaine façon dans les pays du Nord. C'est une vision très... de l'histoire et du développement
occidental.
Très occidental et très... linéaire de l'histoire. C'est-à-dire qu'on s'est considéré que les pays du Nord sont à la pointe d'un modèle de développement, sauf qu'évidemment, on arrive à avoir des conditions environnementales qui peuvent s'améliorer à certains endroits parce qu'on a externalisé une grande partie de la pollution dans les pays du Sud. Donc c'est complètement unique. Mais cette notion de développement durable qui finalement est plus quelque chose de verdissement d'un modèle... Enfin, on modernise écologiquement le capitalisme, en clair.
Oui, et le discours sur...
Et le discours. Et du coup, alors c'est moins pire, mais on ne change absolument pas la direction.
C'est-à-dire que le capitalisme, on peut s'interroger si à un moment donné, justement, effectivement, face aux critiques des militants, des mouvements environnementaux qui sont très violentes, qui remettent vraiment fondamentalement en cause le modèle économique et de développement, le capitalisme, si on peut dire qu'il y a une entité comme globale, etc., est-ce que ça cache, va intégrer ses critiques pour pouvoir prolonger finalement ses...
Complètement. Et du coup, on arrive à ce que... un des problèmes majeurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un greenwashing absolument généralisé qui est porté par la notion même. C'est-à-dire que dès le début, il y a cette ambiguïté et l'ambiguïté va être là tout le temps. On peut à peu près... Et c'est la notion de développement durable est suffisamment polysémique qu'elle en est presque lénifiante et complètement... Parce qu'elle peut... On en fait ce qu'on veut.
C'est orwellien, en fait. Voilà. C'est la nouvelle langue, quoi.
Voilà. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, le problème majeur est des ONG aussi. Et c'est pour ça qu'elles sont... C'est-à-dire que c'est comment je suis dans une logique, finalement, de réforme d'un système sans... Et que je ne m'arrête pas à cette logique de réforme. C'est-à-dire que la modernisation écologique du système, c'est peut-être une étape, mais il y a souvent, en fait, quand on entre dans cette étape-là de modernisation, d'amélioration d'un certain nombre de choses en termes environnementaux, on s'arrête là. Et on ne réfléchit absolument pas à le changement de système ou la métamorphose du système qui est nécessaire, parce que de toute façon, la modernisation écologique ne fait que donner un tout petit peu plus de temps avant une vraie grosse crise ou une clash.
Avant l'effondrement.
C'est la phrase de Serre qui dit on est dans un bateau qui va droit sur les récifs. Et en fait, on ralentit la vitesse, mais on ne change pas de cap. Et la question, c'est le changement de cap. Et les ONG sont vraiment confrontées à ça, parce qu'en fonction des choix qu'elles font, elles aident à plus ou moins réduire les vitesses. Mais...
Avec l'implication croissante du secteur privé.
Exactement. Et donc, je pense que leur posture aujourd'hui, ça devrait être de dire on aide à changer de cap. C'est une question générale qui dépasse les ONG. Mais en même temps, et on profite de l'espace qu'on a et du temps peut-être qu'on se donne, pour réfléchir et mettre en place des choses pour, en plus de ralentir la vitesse, changer de cap. Et on ne lâche pas ça. Et il faudrait systématiquement dire on fait ça, mais attention, on n'a pas perdu de vue qu'il faut changer de cap.
Et à mon avis, c'est un peu difficile, surtout lorsqu'on regarde un peu le tournant qui a été opéré par ces big ONG vers l'utilisation, qui font un appel croissant à l'utilisation d'instruments économiques pour conserver la notion les services écosystémiques. Ils essaient de mettre en place des marchés de services écosystémiques. Ils le font pour le marché de carbone ou les mécanismes REDD.
Exactement.
Et on peut s'interroger finalement sur ce qu'elle souhaite véritablement changer ou...
En fait, elle tombe, et là, pour le coup, on est un peu plus en complexité, mais elles se font piéger d'une certaine façon.
On va devoir terminer. Denis Béchartier, merci beaucoup pour votre intervention. Je suis désolé, ça a été très rapide. Est-ce que tu veux dire 30 secondes quelque chose sur la revue Écologie et Politique dont tu es co-rédacteur ?
Oui, c'est une revue qui réfléchit justement sur les dernières thématiques qu'on a abordées, c'est-à-dire quelles sont les conditions de cette transition écologique et quelle transition écologique on essaye de mettre en place. Le dernier numéro était sur les écologies politiques en Afrique. Le prochain sera sur le siècle des biotech et il y en aura un autre après sur la pensée écologique, les penseurs écologiques depuis le XXe siècle.
Ah, c'est très alléchant, ça. Donc ça peut intéresser les auditeurs.
C'est aux presses de Sciences Po.
Aux presses de Sciences Po.
Voilà, il y en a deux par an.
Il y en a deux par an, très bien. Et ça coûte
Ça coûte autour de 20 euros.
20 euros, ah oui.
Les presses, c'est un peu. Bah, c'est un des bouquins, il y a 200 pages. C'est un peu cher. Et
mais c'est pour combien de. Ça,
c'est des livres en fait, c'est 200 pages minimum.
On va avoir quitté. Merci aux auditeurs. Merci à Denis Chartier. Merci à Johan pour la technique. On se retrouvera donc le prochain jeudi du mois, premier jeudi du mois. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci, au revoir.
Au revoir. Yesterday I was 5 years old.